Alors, je commence par vous, Henri Verdier. Donc, vous avez pris, en tant qu'ambassadeur français au numérique, l'initiative d'un rapport sur les communs numériques en Europe à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'UE au premier semestre 2022. Donc, vous l'avez remis il y a environ un an. Alors, pourquoi déjà avoir proposé ce rapport? Quels sont ses grands enseignements? Je pense que les recommandations principales ont été exposées, mais vous pourrez peut-être nous éclairer davantage. Et puis, pourquoi, à votre avis, les communs numériques représentent une vraie alternative en termes de compétitivité numérique européenne?
Merci beaucoup. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, chers amis, 5 minutes on m'a donné, et ça va être une cavalcade, je vais essayer d'être très précis, mais ça va être un peu lapidaire. Je me permets un premier conseil et je répondrai à votre question dans la dernière des 5 minutes. N'écoutez pas les geeks et les gens du numérique s'ils se lancent dans des questions sémantiques et s'ils commencent à vous expliquer la différence entre les communs, les logiciels libres, l'open source, l'open data, parce qu'on ne s'en sortira pas. Donc la question, c'est qu'il existe dans l'histoire du numérique, au cœur de l'histoire du numérique, des ressources qui ne sont ni privées ni publiques, qui sont fabriquées par des volontaires, et qui sont gouvernés par ceux qui les produisent. Et je voudrais commencer nos débats en rappelant que c'est l'histoire d'Internet, à la racine de l'histoire d'Internet. C'est-à-dire que ceux d'entre nous qui ne sont pas des numériciens sous-estiment peut-être à quel point Internet existe grâce à des protocoles ouverts, des standards ouverts, qui n'appartiennent à personne, des logiciels libres, des données publiques ouvertes. Et 80% de l'activité numérique et de la révolution numérique est fondée là-dessus. Avec, en ce moment, vous y avez fait allusion, ça a été la raison de notre rapport, un mouvement général de recapture de cet Internet commun, mutualisé, à toutes les échelles d'ailleurs. Hein, on a réalisé récemment, parce qu'on n'y avait pas pris garde, que 80% des cadres transatlantiques étaient désormais propriétés de quelques grandes compagnies technologiques. On n'avait pas fait attention, on pensait qu'il y avait des systèmes de péréquation et d'agrément qui nous garantissaient du pluralisme. Donc, c'est pas une utopie, c'est pas une espèce de rêverie de nostalgique de Proudhon ou de Saint-Simon. C'est comme ça que fonctionne Internet. Et donc, bien sûr, il y a d'innombrables raisons d'en parler. Quand j'étais le prédécesseur lointain de Stéphanie, moi, j'aimais bien travailler avec les gens du logiciel libre parce que c'était du meilleur code, parce que c'était une meilleure allocation de données publiques, parce que ça permettait de créer des équipes plus ouvertes sur il y avait plein de raisons. Dans le travail que nous faisons pour créer une fondation européenne pour les communs, on voit des pays qui travaillent les communs comme un levier de politique industrielle, comme un levier de contrôle budgétaire, comme un levier de... Enfin, il y a toutes sortes de raisons. Il y a des gens très honorables, par exemple à l'Éducation nationale, il y en a un ici, qui rappelle aussi que, en apprenant à notre jeunesse à contribuer, à faire, à être actif, à être acteur, on joue un rôle citoyen aussi, et que ça... C'est mieux d'apprendre à nos contemporains à ne pas être des consommateurs passifs de solutions inventées ailleurs et prisonnières de certains modèles économiques. Donc il y aurait mille manières d'en parler, mais c'est vrai que la raison, je crois, qui nous a fait travailler et qui a l'air d'être l'intitulé du colloque, c'est que ces ressources-là peuvent nous servir de relais pour faire émerger d'abord des infrastructures publiques, littéralement du service public, des infrastructures publiques, au service de notre souveraineté. Et moi, je vais me contenter de souligner ça. Sauf que vous m'avez fait sursauter, parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus entendu parler de tragédie des communs. Donc je suis obligé de dire que ce livre est une foutaise, qu'il n'y a jamais eu de tragédie des communs, qu'il y a eu une expropriation violente des communs, que Mme Elinor Ostrom a gagné un prix Nobel d'économie en analysant des communs qui ont traversé les millénaires, que la pêche du poisson dans la baie d'Hudson, elle a tenu des millénaires jusqu'à l'arrivée des colons, grâce à cette gestion collective de la ressource, que l'agriculture surbrûlée dans la forêt amazonienne, elle a traversé les millénaires jusqu'à ce qu'il se fasse exproprier. Puisque précisément, un commun, c'est une ressource qui est gérée par ceux qui la produisent. Et évidemment, dans les règles de gestion, très tôt, la soutenabilité et le long terme ont été intégrés dans les grands communs de l'histoire. Donc, franchement, ce livre, c'est un petit brûlot idéologique qui n'est fondé sur rien en histoire et en histoire économique. Donc je voulais quand même le dire. Alors, brièvement, mais je crois que j'ai déjà dit l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous, mais je voulais insister sur le fait que cette infrastructure numérique, c'est-à-dire à la fois les câbles, les standards, les grands logiciels qui font tourner Internet, nous ferions bien de la considérer comme une infrastructure publique, comme une facilité essentielle, comme une infrastructure publique essentielle, j'ai pas tout le vocabulaire juridique. Et que d'un certain point de vue, c'est ce qui a été fait, par exemple, pour les télécoms. Et il y a une date, enfin, j'ai réalisé récemment, donc peut-être que quelques-uns parmi vous ne l'ont pas encore réalisé, que la création d'Internet, en fait, la création d'Internet, c'est en 1983. Alors, on nous dit, oui, le premier email, c'est 1971, le premier échange d'ordinateur et du routage par paquet, c'est 1969, mais le jour où la DARPA renonce à avoir son réseau propriétaire militaire et rejoint un protocole ouvert, TCP/IP, dans lequel il y a aussi les universités, il y a aussi les entreprises, c'est 1983. Et en fait, c'est l'année qui succède à 1982, qui est l'année du démantèlement d'AT&T. Et un certain nombre d'historiens du numérique font remarquer que jusqu'en 1982, l'armée américaine s'est dit « peut-être que je pourrais le contrôler, ce réseau ». Et puis quand ils ont vu que même AT&T avait été démantelé, après une procédure qui a duré 8 ans, ils se sont dit « bon, on n'y arrivera pas, donc autant rejoindre le mouvement d'ouverture et coopérer avec les autres ». Donc on l'a fait pour les télécoms. Il faut qu'on pense à le faire pour le numérique, pour une raison très simple en fait, je m'excuse presque de dire de telles trivialités, c'est que si vous laissez le pouvoir aux infrastructures, notamment de décider leurs revenus, ou de... Je pense que Sébastien connaît ça mieux que moi avec ses fonctions antérieures à l'ARCEP. Si vous les laissez en situation de vous obliger à faire du partage des bénéfices, c'est eux qui choisissent vos revenus. En Inde, avec lesquels je travaille beaucoup, où ils ont construit des infrastructures publiques pour l'identité, le paiement, l'échange sécurisé de données, le transport, et quand ils disent public, ça ne veut pas dire étatique. Ça veut dire qu'elles obéissent aux règles de base du service public. Égalité d'accès, ça ne veut pas dire gratuit. On n'a jamais dit que ces infrastructures devaient être gratuites. On a dit qu'ils ne peuvent pas forcer au partage de revenus. Ils peuvent quand même amortir leur coût de déploiement. Mais ils l'ont fait en disant, si vous bâtissez votre économie dans les plateformes d'un autre, c'est lui le patron, c'est lui qui décide vos revenus, vous êtes dans la position d'un chauffeur Uber. Et on ne peut pas être une nation de chauffeurs Uber. Et la question, elle est là, c'est si nous voulons développer une économie autonome, si nous voulons une souveraineté économique, mais aussi si nous voulons être en situation d'imposer nos règlements, la protection contre la violence, contre l'antisémitisme, contre la haine, il faut avoir, en quelque sorte, une main sur l'infrastructure. Il faut être capable d'en déterminer le devenir, en fait, d'empêcher l'infrastructure de prendre le contrôle. Et je termine, puisque je sais qu'on n'a que 5 minutes, je vous disais que c'était bel et bien l'histoire initiale d'Internet. C'est ce qui fait qu'Internet a changé le monde déjà 2-3 fois ces 40 dernières années. Et effectivement, nous vivons un moment où, pour toutes sortes de raisons, l'une d'entre elles est peut-être une sorte de négligence des autorités politiques dans le monde entier qui ont finalement... en même temps, on leur avait demandé, nous autres, les gens d'Internet, de ne pas trop réguler, de ne pas trop contrôler, de pas trop... Donc, mais là, on est peut-être allé un peu loin. L'autre, c'est quand même, bien sûr, la taille critique atteinte par des entreprises gigantesques. Et ça, je dois dire que je ne suis pas sûr qu'on réalise vraiment en France, on n'est pas encore accoutumé à penser la question de la relation avec une entreprise qui pèse 1000 milliards de dollars. On ne se rend pas compte de leur puissance de R&D, par exemple, de leur capacité à imposer un standard. Donc c'est une deuxième raison. La troisième, c'est qu'il y a aussi quand même, puisque je suis devenu diplomate, un certain nombre de pays sur Terre, plus nombreux qu'on pourrait le penser, pour qui ce système qu'ils estiment libertaire n'est pas appréciable. Donc la liberté d'expression, la neutralité des infrastructures, le fait qu'on ne décide pas qui a le droit de parole, ça ne leur plaît pas. Donc il y a aussi un travail de sape sur ce réseau. Et aujourd'hui, il vit une sorte de mouvement de recapture. J'ai fait allusion aux couches basses, aux câbles. Les protocoles communs, on doit se battre tous les jours, notamment à l'Union internationale des télécommunications, pour rester sur des protocoles communs et pour refuser des propositions de nouveaux protocoles TCP/IP, de nouveaux DNS, et puis les couches hautes, ben ça vous le savez parce qu'on en parle beaucoup, mais nos enfants, ils vont plus sur Internet en fait. Ils passent leur vie dans des entreprises privées qui s'appellent Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, qui ne sont pas Internet, qui sont même quasiment le contraire d'Internet, puisqu'elles sont centralisées, non neutres, non libres, non ouvertes. Et on va avoir besoin de reprendre la main. Et pour ça, je termine peut-être avec ça, l'Europe pourrait se grandir à devenir le défenseur de ses communs. Alors on l'a déjà dit et tout le monde va le redire, c'est logiciel libre, c'est standard ouvert, c'est données publiques. L'Europe devrait peut-être joindre le geste à la parole et trouver des moyens de financiers pour soutenir ces communs. Vous vous rappelez peut-être la mini-polémique il y a à peu près un an, quand on a découvert que la moitié de l'industrie mondiale utilisait un petit logiciel qui s'appelait Log4j, et qui était l'objet d'une faille de sécurité. Et tout le monde a dit « mon Dieu, même Tesla a été attaqué ». C'était deux développeurs canadiens bénévoles. Ils n'avaient jamais reçu un dollar d'aide publique, jamais un audit d'une autorité de sécurité. On avait construit l'économie mondiale sur le travail bénévole de deux gars, et un jour on leur dit « vous n'étiez pas assez sérieux, les amis, bah, peut-être qu'on aurait pu les aider et être présents ». Et l'Europe, en faisant ça, et donc nous y travaillons, et comme nous aurons normalement un deuxième tour de parole, je développerai un peu plus le projet que nous portons actuellement. Mais par ailleurs, effectivement, on a créé un consensus entre 19 pays et on avance au rythme européen, mais on avance. C'est aussi une posture européenne de ce que pourrait être une souveraineté numérique. C'est-à-dire que si vous regardez le monde tel qu'il va, tout le monde parle de souveraineté, mais les uns très à l'est disent la souveraineté, c'est le droit de faire ce que je veux chez moi et de faire subir ce que je veux à ma population, donc ce n'est pas la vision de l'Europe. D'autres alliés et amis plus à l'ouest ont du mal à voir la différence entre souveraineté et hégémonie stratégique, parce qu'ils ont une culture stratégique qui consiste à dominer le champ de bataille. En Europe, on est capable de dire, nous on demande juste l'autonomie, on demande, comme le maréchal de Lattre, à ne pas subir. Et donc on n'a pas besoin de dominer les autres, on n'a pas besoin de contrôler Internet, mais on ne veut pas que qui que ce soit nous domine, et on est capable de construire des positions stratégiques d'autonomie, parce que, comprenez ça quand même, quand on construit des services publics, par exemple, comme je l'ai fait et comme le fait Stéphanie, dans Google Maps, et bien si un jour, comme en juillet 2018, Google multiplie les tarifs par 100, et bien les sites des sous-préfectures ferment, parce qu'on n'avait pas prévu que les tarifs allaient changer par 100. Quand on les construit dans OpenStreetMap, les tarifs ne peuvent pas changer. Et puis de toute façon, on peut prendre une copie du truc et continuer tout seul. On peut l'améliorer s'il y a des problèmes. Donc on parle vraiment d'une autonomie à la racine. La définition même d'autonomie, c'est j'ai mon destin en main. Si ça ne me convient pas, je continue tout seul. S'il y a une erreur, je corrige. Je n'ai pas de problème de quelqu'un qui change les règles du jeu, qui change les tarifs. Et donc à la fois, on aurait intérêt à se placer dans ces positions-là, et on aurait intérêt à montrer que c'est bien de ça que parle l'Europe, et que quand l'Europe construit sa souveraineté, elle peut aussi soutenir la souveraineté de l'Afrique, la souveraineté de l'Amérique latine, parce qu'elle peut avoir une vision coopérative de la souveraineté. Quand je dis « je ne veux pas qu'on me domine », ça ne veut pas dire que je veux dominer l'Amérique latine, ça veut juste dire que je cherche des chemins où personne n'a de monopole, où personne n'impose ses règles de manière non concertée, et des chemins qui peuvent parfaitement se partager avec d'autres. Voilà, je me tais. Et je me réjouis d'entendre cette magnifique table ronde.
Merci beaucoup, Monsieur Verdier. Stéphanie Cher, je me tourne vers vous. Donc, vous dirigez la direction interministérielle du numérique, qui a initié plusieurs programmes, plusieurs coopérations en relation avec les communs, en particulier l'accélérateur d'initiative Strain, mais ce n'est pas la seule initiative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la transformation de l'action publique est selon vous indissociable aujourd'hui de la logique de communs, numérique en particulier, et pourquoi les acteurs publics s'en saisissent comme une alternative souveraine aujourd'hui aux solutions de marché?
Merci beaucoup. Donc, en effet, au niveau... Non, ça ne marche pas. Oui.
Ah, c'est moi qui donne la...
Ah. Ou 4 ou 5. Ok, je crois que c'est bon. Bonjour à tous. Je suis très heureuse aussi d'être parmi vous aujourd'hui, de participer à cette table ronde sur les communs numériques. Donc à la direction interministérielle du numérique, en effet, on est investi sur ces questions de communs numériques, et je vais essayer d'expliciter avec des exemples très concrets la façon dont finalement on soutient, comme l'a défini à l'instant Verdier, ces ressources libres produites et maintenues par des communautés. En fait, tout l'intérêt qu'on voit dans ces communs numériques, c'est justement le fait qu'ils sont biens matériels qui peuvent être réutilisables et produits, gérés par des communautés qui ont cette particularité d'avoir leurs propres règles de gestion et partageant les mêmes valeurs. Et la façon dont on voit les communs numériques à la DIM, c'est cette façon extensive qui a été décrite à l'instant, en allant des protocoles ouverts aux logiciels, aux briques logicielles qu'on peut réutiliser dans les produits. Et ça, on le fait assez couramment pour l'ensemble des services numériques de l'État, mais également des données et des contenus ouverts. Donc, si je rentre sur la façon dont on mobilise ces communs numériques au niveau de l'État, la première chose, c'est pour arriver à produire des produits numériques, des services numériques qui vont bénéficier en fait de ces développements de communautés très ouvertes. On a un exemple concret, on a mis à disposition de 400 000 agents publics une messagerie instantanée souveraine maîtrisée par l'État qui s'appelle CHAP. On applique en fait un protocole ouvert hein, qui est le protocole Matrix. On bénéficie de tous les investissements qui sont faits par la communauté Matrix pour de nouvelles fonctionnalités en mobilisant ce commun. Et on n'est pas les seuls en France à avoir choisi cette voie. J'ai eu des échanges avec nos homologues en Allemagne. L'Allemagne a fait ce même choix de disposer d'une messagerie instantanée, souveraine, opérée par leurs soins, mais se basant sur ce même protocole. Et je pense que là, il y a une vraie voie également de développement, de progrès. C'est au cœur de la nouvelle feuille de route de la Direction internationale du numérique que d'investir dans des briques logicielles libres, ouvertes, qui permettent d'avoir des produits mis à disposition de l'ensemble des agents publics dont on maîtrise le développement. Pour prendre un deuxième exemple, il y en a aussi tous les services numériques qui peuvent bénéficier de briques. Bon, ça a été cité un instant par Henri Verdier sur les briques de cartographie. En effet, une bibliothèque JavaScript qui s'appelle Leaflet, qui est une cartographie mobilisée dans OpenStreetMap, et aujourd'hui, c'est une réalité d'utilisation dans un certain nombre de services numériques qui sont utilisés au quotidien par un grand nombre de Français. Des services numériques qui ont été établis sous forme de start-up d'État, je pense notamment à Accès Libre, à Aide Territoire, ou dans le cadre de transport.datagouv.fr, et quand on doit situer sur une carte, on a cette utilisation de bibliothèque. Le fait d'utiliser ces communs, c'est une chose, en fait, on va aussi y contribuer. On a une doctrine aussi de mettre en libre tout le code développé par l'action publique, par l'administration. Et si je prends aussi un exemple concret, on a PIX, par exemple, qui est un service numérique de certification des compétences numériques, qui a tout son code en libre et qui, aujourd'hui, fait partie de la coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO et qui, du coup, contribue aussi, finalement, à l'ensemble de ces communs numériques. Donc ça, c'est le premier, finalement, engagement qui est très concret, hein, utiliser ces communs numériques pour faire progresser, finalement, notre transformation numérique tout en maîtrisant la pérennité. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'on arrive à animer aussi l'ensemble de ceux qui utilisent les logiciels libres, qui contribuent. Et depuis 2021, on anime à la DINUM une communauté du libre au sein de l'État. C'est fait par la mission logiciel libre. C'est suite à la circulaire qui avait été signée par Jean Castex en 2021. Et ça permet aussi de participer à des consortiums européens très concrets hein, sur l'utilisation par différents pays européens de briques libres. Donc, je pense notamment à GovTech for All, auquel on participe, et avec des projets de coopération très concrets. Par exemple, la mobilisation d'une brique libre développée en France, OpenFISCA, et aujourd'hui, avec un accompagnement pour que d'autres pays s'en saisissent, comme la Grèce et les Pays-Bas. Le troisième point sur lequel j'aimerais partager avec vous, c'est la façon dont on peut aussi accompagner des initiatives de la société civile pour l'émergence de communs numériques. Ça a été évoqué, se pose la question quand même du soutien, du financement. À l'aune de ce qui a pu se passer aussi au moment du Covid, avec l'émergence d'initiatives comme Covid Tracker, initiative prise par Guillaume Rosier, On s'est questionné sur la façon dont l'action publique pouvait davantage s'appuyer sur des initiatives de la société civile. Et c'est comme ça qu'est né l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Cet accélérateur donc, qui est placé au sein de la DINIM, au sein de notre incubateur de services numériques, et qui part du constat finalement que l'intérêt général, l'action en faveur de l'intérêt général, l'État n'en a pas le monopole. Il faut savoir s'appuyer sur de bonnes initiatives plutôt que de redévelopper ça au sein des services de l'État. Donc il y a une première saison, la saison 1, qui a permis d'accompagner un certain nombre d'initiatives. Et on a relancé une saison 2, là tout récemment, hein, c'était au printemps. Les lauréats ont été annoncés au mois de mai. L'un d'entre eux, Open Prospect d'ailleurs, est présent parmi nous aujourd'hui, avec ce souhait d'orienter complètement l'action vers l'accompagnement de ces communs de toujours en lien avec un projet d'intérêt général. Donc, en l'occurrence, dans le cas d'Open Food Facts, on est sur l'accompagnement pour élargir cette base de données qui concerne les produits alimentaires sur l'impact carbone, qui est devenu un besoin avéré dans le cadre de tous les travaux sur la planification écologique, la transition écologique, d'avoir des éco-scores. On avait un service numérique en incubation sur ces sujets, c'est EcoBalise, incubé à l'ADEME. Et donc, au lieu de redévelopper une base de données sur l'impact carbone, on s'est dit que ça pouvait être très bien d'accompagner en finançant et en accompagnant aussi en moyens humains cette collaboration innovante entre Open Food Facts et ce service incubé de l'ADEME. Donc, un petit peu pour résumer hein, sur l'action au niveau de l'État portée par la DINUM, on est vraiment sur ces deux pieds. Un pied qui est l'utilisation et la contribution au commun numérique dans des produits très concrets, soit tournés vers le service aux citoyens, aux entreprises, services numériques, soit des produits numériques, des outils pour rendre plus attractif l'environnement de travail des agents publics de l'État et plus efficace également. Et ce deuxième pied est de voir comment on arrive à bien accompagner ces communs numériques pour les faire émerger, les rendre plus solides également et s'appuyer sur eux pour arriver à porter l'ensemble des politiques publiques et tous les enjeux et défis qu'elles portent.
Merci beaucoup Stéphanie Cher. Sébastien Soriano, je me tourne vers vous. Vous êtes un converti de longue date, hein, mais aujourd'hui à la tête de l'IGN, vous avez continuer hein, votre pari sur les communs pour moderniser l'action publique, mais aussi pour accélérer la transition environnementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez repris cet engagement dans votre nouvelle maison, quels premiers résultats concrets vous en tirez, et puis peut-être nous dire un mot d'un commun qu'on ne va pas vous représenter en deuxième partie, d'avoir OpenStreetMap qui a été mentionné par Henri Verdier, mais qui va avoir un rôle particulier sur votre périmètre. Merci.
Bonjour à tous, merci, je suis ravi d'être là. Effectivement, je dirais, les communs, il y a une première manière de les regarder, qui est de se dire que personne ne les contrôle. Et donc, si personne ne les contrôle, c'est qu'ils appartiennent à tout le monde. Bon. Mais il y a aussi une deuxième manière de les regarder, qui est de se dire que les communs, c'est ce qui va permettre d'atteindre des masses critiques. Ce que mon voisin de gauche a appelé la multitude. C'est-à-dire que grâce aux communs, on va pouvoir rassembler en fait quantité d'acteurs qui vont avoir un impact qu'on n'avait pas forcément imaginé. Donc effectivement, OpenStreetMap, donc c'est un mouvement mondial de cartes libres. En France, l'IGN, donc l'Institut national public de cartographie, c'est 1500 personnes. Bon, on va dire que c'est pas mal. Mais les volontaires OpenStreetMap sont 10 000. Et donc volontaires OpenStreetMap, ils vont se retrouver le samedi après-midi et ils vont se mettre à cartographier le canal du Midi, les Champs-Élysées, à repérer les lampadaires, les poteaux, les commerces. Ils vont mapper, ils vont inscrire ça dans une base de données ouverte. Et ces petites fourmis, sans être péjoratif, aujourd'hui ont réussi à bâtir une carte mondiale. Alors, ils ont bénéficié de beaucoup de dons aussi qui ont été faits, ou de données en open data d'instituts publics comme l'IGN, qui ont versé leurs données. Donc, ils ont reçu ces données, ils rajoutent leurs données propres. Et aujourd'hui, grâce à ça, ben, quand il y a, par exemple, la guerre en Ukraine qui se déclenche, eh ben, on peut tout de suite avoir accès à un certain nombre de données cartographiques. Et on sait que ce sont des éléments stratégiques, comme le disait l'essai des années 70 bien connu. La géographie, c'est d'abord fait pour faire la guerre. Voilà. Et donc, la première force des communs, je crois que c'est cette manière de passer à l'échelle. Et ça, je crois que c'est vraiment le point sur lequel je vais insister, parce que ça me semble être aujourd'hui le grand défi de notre époque. C'est-à-dire que face au changement climatique, on voit bien qu'on est face à d'immenses défis. Je vais vous donner un exemple qui ne va pas être numérique pour se fixer des idées. C'est la rénovation thermique des bâtiments. Moi, ce qui me fascine aujourd'hui dans la rénovation thermique des bâtiments, c'est qu'on voit bien que même avec des aides fiscales importantes, même avec des incitations, même avec des interdictions de location, il reste que c'est un secteur extraordinairement éclaté, qu'il faut trouver des artisans qui le font, il faut qu'ils prennent rendez-vous chez vous, il faut qu'il y ait des matériaux, il faut qu'il y ait une offre en fait. Il faut qu'il y ait une offre de rénovation thermique des bâtiments. Est-ce que cette offre, elle existe aujourd'hui? C'est une bonne question. Et comment est-ce qu'on la passe à l'échelle? Et donc, nous, c'est vraiment ce qui nous anime à l'IGN, c'est comment on répond à ces défis. Alors, dans notre secteur, les défis sont autour de la connaissance des territoires. Donc, comme on est à l'Assemblée nationale et qu'il y a un certain nombre d'élus locaux, je vais prendre un exemple, c'est l'évolution du trait de côte. Donc, aujourd'hui, on sait qu'avec un certain nombre d'événements climatiques, on a un retrait du trait de côte. On doit organiser des prévisions sur cette évolution et sur la base de ces prévisions, qu'on doit ensuite aller voir les habitants, les utilisateurs, ça peut être des agriculteurs, ça peut être tout un tas d'usages, de ces terres qui vont être progressivement grignotées. Aujourd'hui, vous avez une gouvernance de cette question du suivi du trait de côte qui est extrêmement éclatée. Vous avez les observatoires régionaux du trait de côte, vous avez les collectivités locales, vous avez le conservatoire national du littoral, vous avez le bureau de recherche géologique et minière, vous avez comme ça tout un tas d'intervenants, le CEREMA, qui interviennent pour essayer de faire chacun la petite prévision dans son coin. Mais aujourd'hui, où est le grand référentiel national dans lequel vous pouvez suivre l'évolution du trait de côte? Vous pouvez zoomer chez vous et voir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, nous, c'est ça le défi auquel on est confronté particulièrement dans notre secteur. Et donc, on voit surtout les communs comme une manière de créer des alliances. Et de créer des alliances, pas seulement entre la multitude, c'est-à-dire des volontaires qui vont s'auto-organiser pour résoudre quelque chose, parce que ça, quelque part, ils le font déjà, ils n'ont pas besoin de nous, mais de comment est-ce qu'on allie la puissance de feu de ces communautés avec celle de l'État, des collectivités locales, de l'ensemble des acteurs publics, et pourquoi pas du marché lorsque ça s'y prête. Voilà. Donc, comme il y a un deuxième temps de parole, peut-être qu'on en parlera un peu plus précisément de qu'est-ce que ça veut dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour populariser cette idée, j'ai créé ce petit autocollant que je vais vous remettre, Madame Bretéché, chère Jeanne, en mode commun d'eau. C'est-à-dire que je crois que le défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à combiner l'agilité et le faire ensemble. Comment est-ce qu'on crée ce mode commun d'eau qui va nous permettre de se mettre dans des logiques d'impact, dans des logiques de travailler ensemble, dans des logiques de décilotation. Et je le dis d'autant plus qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de simplification. Souvenons-nous du choc de simplification. Est-ce qu'on a l'impression qu'il a réussi ce choc de simplification? Est-ce qu'on a l'impression que le millefeuille territorial a été simplifié, pour ne donner que cet exemple? Voilà. Et moi, je crois fondamentalement que la décilotation, c'est ça la simplification. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Alors, Jean Quetton va passer à vous. Le Conseil national du numérique planche depuis quelques mois déjà sur un rapport qui est, je crois, assez complet sur les communs. Donc, vous allez pouvoir revenir peut-être sur les raisons qui l'ont motivé, mais aussi sur les conclusions que vous tirez sur les trois grands enjeux des communs numériques, à savoir la gouvernance, la création de valeur et le financement. Peut-être nous parler des solutions que vous pouvez entrevoir pour réutiliser des modèles qui existent déjà et maintenir ces communs numériques.
Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir d'être ici en effet pour discuter de ce sujet qu'on explore un petit peu tous chacun dans notre coin depuis une bonne quinzaine d'années, voire plus. Au Conseil national du numérique, il y a une mission qui nous a été donnée en gros il y a 2 ans, qui était d'explorer notre relation numérique, de voir un peu l'impact que le numérique avait sur nous, sur ce que nous sommes, et comment est-ce qu'il nous transformait dans ce que certains appellent une grande révolution anthropologique, en fait, de l'humanité. Pour cela, on a produit des ouvrages, j'en profite un petit moment promo, il y en a 7 comme ça, plus d'autres, évidemment, choses qu'on a faites notamment avec IGN, qui sont accessibles librement, évidemment, et que vous pouvez nous demander en version papier par email. Et en fait, on s'est rendu compte que dans tous les problèmes que l'on rencontrait dans notre environnement numérique, il y en avait un qui était phare, qui avait été mis en exergue aussi par Henri Gardier dans un de ses récents ouvrages, qui était évidemment le business model de ces entreprises. Et si aujourd'hui on peut voir s'ouvrir peut-être demain ce marché numérique grâce par exemple à un règlement européen comme le Digital Markets Act, même s'ils n'y parviennent pas forcément, ça ouvre dans nos esprits cette question. Et ça a ouvert dans nos esprits au Conseil cette question de savoir s'il y a plus d'ouverture sur nos marchés, finalement, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître? Quels sont ces autres modèles d'affaires potentiels que l'on peut voir apparaître? Et évidemment, là encore, pour reprendre une formule d'Henri Verdier, forcément, on tombe sur cette première voie, qui sont les communs numériques, puisque c'est historiquement tout à fait exact, évidemment, que les communs sont la première voie de construction d'Internet. Interrogez-vous même sur ce que vous utilisez tous les jours, à savoir le Wi-Fi par exemple, qui est pour moi un pur produit en fait des communs. C'est-à-dire ce sont des fréquences libres qui ne sont pas attribuées contre une redevance par l'État, sur lesquelles on applique des protocoles. Hein, vous avez peut-être déjà vu sur vos ordinateurs IEEE 802.11, peut-être vous avez déjà vu ça. En fait, c'est le groupe de travail à l'IEEE qui est un organe de standardisation auquel tout le monde peut participer, et qui en fait définit les règles d'usage de cette ressource partagée qui est le Wi-Fi. Donc on est vraiment face à une gouvernance d'une ressource partagée que l'on considérait à tort comme rare, mais qui en fait ne l'est pas, parce qu'on a appliqué l'intelligence de la multitude dessus, et finalement on se rend compte qu'elle est quasiment infinie, et qu'elle a permis de se faire développer en fait toute une économie multibillionnaire. Et aujourd'hui c'est commun d'utiliser le Wi-Fi, mais en fait c'est un commun. Et donc, en fait, on en arrive à concevoir que peut-être notre environnement numérique pourrait être différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et on se rend compte aussi, quand on plonge un petit peu dans ce monde-là des communs, en effet, que les choses sont particulièrement difficiles. Il faut rendre honneur à tous les gens qui travaillent tous les jours parce que les choses sont particulièrement difficiles. Et aussi, on se rend compte que les choses ne sont pas forcément binaires. Et c'est un petit peu nécessaire, puisqu'il y a une autre caractéristique d'Internet qui est d'être un monde de liens. Il n'y a pas l'Internet des communs d'un côté et l'Internet ultra-capitaliste de l'autre. On a ici un représentant de Wikimedia France, et qui pourra évidemment me contredire au besoin, mais c'est intéressant quand même quand on arrive sur la page de Google Search, on cherche quelque chose. Très souvent, en fait, il y a une text box qui en fait ramène du contenu Wikipédia sur la page de Google Search. Là, comme entre-là, j'ai pas trouvé d'illustration encore plus symptomatique que celle-là, à tel point, et donc Rémi pourra aussi me contredire évidemment, mais qu'il y a eu le développement de Wikimedia Enterprise, qui a pour vocation maintenant justement de faire payer potentiellement ces grands exploiteurs de Wikipédia, de faire payer donc Google pour son exploitation de Wikipédia. Je trouve ça assez intéressant comme pied de nez en fait, que Google devienne client de Wikipédia. On voit bien qu'on est dans un monde d'entre-là, et il y a beaucoup d'exemples comme cela. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est très difficile en fait, de faire vivre un commun, et surtout parce que le monde n'est pas complètement binaire, et qu'il y a beaucoup de liens à entretenir entre ces différents modèles. Mais attention, attention à ce qu'un autre auteur a appelé, donc Lionel Morel, qu'il a appelé les communs du capital, attention à ce qu'il n'y ait pas d'appropriation, de cannibalisation par les grands modèles capitalistiques, de ces ressources et de tout leur potentiel. Donc ça, c'est une chose qui nous alarme, qui nous alerte et nous fait dire attention, il y a quelque chose à faire, il y a un soutien à apporter. Et on voit que ce soutien à apporter, il peut venir en très grande partie notamment de l'État. Notre représentant éminent du monde des communs, évidemment, mais enfin, il y a des illustrations magnifiques à l'ADINUM, il y en a dans d'autres endroits de l'État, et tout se fait en collaboration. Je veux prendre le moment d'insister aussi pour dire, je crois qu'on vit un moment où il y a une sorte de génération spontanée au sein de l'État, où il peut vraiment se passer des choses. Et quand on voit aujourd'hui combien est-ce que l'éducation nationale met d'efforts dans le développement et le soutien de solutions comme PeerTube, par exemple, sur lesquelles, par exemple, sont hébergées les vidéos du Conseil national du numérique, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos vidéos sont hébergées sur une instance peer-to-peer, je vais revenir sur ce que c'est, qui est administrée par l'Éducation nationale. Donc ça, on en est particulièrement fiers et heureux. Peer-to-peer, c'est quoi? En fait, c'est l'alternative à YouTube en mode commun. C'est-à-dire, comment est-ce que vous construisez un réseau social qui héberge des vidéos en mode commun, sans avoir de modèle capitalistique, mais au contraire, une architecture complètement distribuée, entretenue par tous les utilisateurs, avec un mode de gouvernance ouvert à tous les utilisateurs. Bien, ça, ça existe, l'État y apporte un soutien, et on peut aujourd'hui envisager d'autres modèles que ceux ultra-capitalistes, donc qui nous sont imposés hein, par commodité, par utilité, parce qu'ils sont très pratiques, très bien, etc., mais qui potentiellement nous enferment et nous font de nous finalement des produits. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant aussi de se pencher naturellement sur la question des communs, et notamment quand on vient de l'État? Mais parce qu'en fait, les communs sont une forme d'extension du champ de la démocratie. C'est une manière de considérer chaque objet du quotidien et de se poser la question, en fait, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans l'exercice de la démocratie autour de cet objet-là? Prenons encore une fois les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont gouvernés par des entreprises centralisées qui décident absolument de tout et qui nous donnent aucun droit de choisir, de décider quoi que ce soit sur leur organisation. Est-ce que si on pense les réseaux sociaux comme des communs, donc comme j'évoquais avec Peer-to-peer, ou comme on pourrait évoquer Mastodon, etc., est-ce que l'on peut imaginer finalement une forme de démocratie appliquée aux réseaux sociaux? Sébastien Soriano évoquait le cas de la rénovation des bâtiments. C'est un cas particulièrement illustratif. On avait entendu un ministre à un événement de l'IGN en effet évoquer ce cas-là. En fait, on peut aller encore plus loin et se dire, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas considérer chaque bâtiment public comme un commun? Et finalement, on va avoir tous nos problèmes de rénovation thermique, par exemple, qui vont se poser complètement différemment. Je prends l'exemple de l'open data. Il est absolument fantastique d'avoir tous ces jeux de données ouverts. Maintenant, si on considère ces jeux de données comme des communs, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire peut-être que les utilisateurs vont décider des formats sous lesquels ces jeux de data sont distribués, exactement de quelles données il s'agit. Et finalement, on pourrait imaginer des organes de gouvernance, puisqu'on en revient à ça quand on parle de communs. On parle de la gouvernance d'une ressource. On en revient à des organes de gouvernance citoyens, potentiellement, qui sont incarnés par les utilisateurs de la ressource. Et c'est là où on voit qu'il y a un intérêt peut-être, et bon, c'est juste pour la disputation, mais c'est intéressant, dans la différence entre les termes. C'est qu'on peut passer de l'open data au commun en instituant une gouvernance ouverte à tous les utilisateurs sur la ressource. Et donc c'est en cela, finalement, que les communs, et je m'arrêterai là, sont particulièrement intéressants, c'est qu'ils nous donnent un cap. Donc c'est là où je rejoins aussi ce que disait Regardez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'attacher non plus aux différences de termes, mais garder à l'esprit qu'il nous donne un cap démocratique, profond. Sur chaque ressource, qu'est-ce que je peux faire en plus pour ouvrir la gouvernance, diminuer le risque d'erreur aussi, en conviant la multitude, encore une fois, autour de la table.
Merci beaucoup, Jean. Je vais terminer ce premier tour de table. En effet, il y en a un second qui sera sans doute un peu plus court que prévu. Pierre-Louis, voilà, la NCT, vous misez aussi sur les communs pour accélérer la transformation sur les territoires, en particulier avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous encouragez le renouveau des communs comme outil de coopération territoriale, mais aussi transsectorielle. Vous avez créé un label, Numérique en commun, ainsi que l'événementiel également. Alors pourquoi? Pour quel résultat et quel potentiel pour la souveraineté numérique territoriale, mais aussi européenne, puisque l'Europe, c'est une somme de territoires, finalement.
Bonjour à toutes et tous, et à mon tour de me réjouir de participer à ces échanges. Et comme je souscris à l'intégralité des propos qui ont été tenus avant moi, je vais essayer d'apporter un peu un témoignage pratique de comment une petite administration a pu s'appuyer sur les communs pour arriver à se développer. Alors, comme on est l'institution la plus récente acceptable, l'ANCT, on a trois programmes qui travaillent beaucoup sur cette question des communs numériques. Je pense au programme Société numérique qui met en œuvre la politique publique d'inclusion numérique et de montée en compétences numériques pour le compte du gouvernement. L'incubateur des territoires qui lui développe des produits numériques dans le sillage de la DINUM et de Beta.gouv pour les collectivités locales, et Nouveau Les Nouveaux Liens, qui est le programme de soutien aux tiers-lieux sur lequel on travaille, notamment sur tout ce qui relève des communs, de la fabrication distribuée, des Fab Labs, etc. Mais avant d'être l'ANCT, on était une petite administration qui s'appelait l'Agence du numérique, et c'est là où est né ce premier programme qui est Société numérique, où le gouvernement nous a confié cette mission de réfléchir à comment mettre en place une stratégie pour l'inclusion numérique. À l'époque, le budget de l'inclusion numérique, ce n'était pas 250 millions d'euros, c'était 384 000 euros et 5 personnes dans des bureaux gris à Bercy. Et il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, on aurait pu faire des rapports et des événements et des posts de blog. On s'est dit qu'il fallait qu'on s'appuie quand même sur un héritage qui était assez ancien, celui de l'éducation populaire, celui de la vulgarisation scientifique, celui des Fab Labs, des tiers-lieux, des hackerspace, et qu'il y avait cette culture-là de l'open source, des communs, du savoir partagé qui existait. Avec une tradition de la médiation numérique aussi qui était ancrée dans le pays, portée depuis longtemps d'ailleurs par les collectivités locales de par leur action culturelle ou sociale, et qui avait là un véritable levier d'action. On était trop petit et qu'on n'avait pas assez de moyens, et les communs, finalement, c'était, bon, certes, une conviction, mais c'était surtout une nécessité pour réussir ce passage à l'échelle qui était évoqué par Sébastien Soriano juste avant moi. Donc ils se sont avérés être une utopie pratique très concrète. Et ce que je voudrais aussi dire à tous les participants, c'est que les communs, ce n'est pas, comme on l'entend souvent, du bricolage. Ça peut être du bidouillage vertueux, mais ce n'est pas simplement des choses approximatives. Ce n'est pas une usine à gaz, mais la gouvernance est quand même très importante. Et il faut veiller à ce que le commun ne s'embourbe pas, si vous me permettez l'expression. Et ce n'est pas un gouffre financier. On a souvent des collectivités qui nous disent... Ah, mais ça nous coûterait moins cher d'acheter sur étagère ce que nous propose, je masquerai les noms ici, des Big Four qui se vendent par exemple des solutions numériques. Mais ça demande aussi de changer de logique dans l'achat public, on y reviendra, de logique aussi dans l'association. Donc, nous, on a expérimenté, on reviendra sur le modèle juridique, on a pris les premières prises de participation de l'État dans des coopératives, par exemple. On a mis le paquet sur les communs aussi pédagogiques et informationnels, comment est-ce qu'on va nous s'appuyer sur toute la production de ressources qui existe, et quand on a développé des logiciels, c'était de faire en sorte qu'on puisse aussi organiser la passation au territoire, aux collectivités, dans une logique aussi de co-investissement. Et qu'on passe d'une logique aussi d'acheteur public à une logique d'investisseur, et qu'on avec un objet, une obsession, c'est la pérennisation. Comment, si nous on disparaît, c'est de... Ça implique à une administration de penser à la fois d'organiser sa minorité, de penser sa propre disparition, parce que une majorité change, une politique publique change, qu'est-ce qui se passe si on disparaît, et qu'est-ce qui reste de l'investissement public qui a été fait, et des communs numériques, ou non, ou informationnels qui ont été créés. Donc ça a été, quelque part, cette méthode de travail, et le commun, ça s'entretient, sinon ça s'étiole, c'est pour ça que le numérique en commun, la communauté est née, qui était une communauté de praticiens, de techniciens des collectivités territoriales, d'élus, et aussi majoritairement de membres de la société civile qui viennent, que ce soit des geeks ou des travailleurs sociaux. Donc c'est la sixième édition que cet événement, cette communauté de pratique existe, et ça a été un peu pour nous le vecteur de commencer aussi à toucher d'autres publics, à élargir, parce que la question de l'inclusion numérique, la question des compétences numériques, ça a été beaucoup de l'accès au droit, mais finalement, quand on tire la pelote, ça fait des choses. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on souhaite faire évoluer ce modèle numérique en commun, et d'inviter d'ailleurs toutes les personnes présentes à rejoindre la gouvernance et le pilotage de la prochaine édition, qui d'ailleurs, je peux me permettre un petit message de publicité, le 19 et 20 octobre au Palais de la Bourse à Bordeaux. L'année dernière, on était 2000. Au Stade Bollard à Lens, qui nous a généreusement accueillis. Et c'est un événement où vous pouvez croiser dans le même atelier Rod Rétang, la ministre du numérique de Taïwan, et un travailleur social qui est contributeur à Wikipédia. C'est un peu ce brassage-là, et d'essayer de mixer les publics et de réfléchir collectivement aux solutions pour, encore une fois, le mot-clé, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on pérennise ces communs-là, et je pense que les acteurs publics ont un rôle assez important à jouer là-dedans.
Merci beaucoup. On va passer donc à la question qui va être une question de conclusion, malheureusement, pour pouvoir également laisser l'occasion aux personnes présentes ici de poser leurs questions. Donc en préparant cette conférence, nous sommes confrontés à un constat, hein, la méconnaissance générale sur les modèles des communs numériques. On a vu qu'ils bousculaient les organisations préétablies, ils ont un petit potentiel révolutionnaire. Je pense que ce premier tour de parole établit qu'il est grand temps de les accélérer, donc d'accélérer aussi les coopérations entre les parties prenantes publiques et privées qui contribuent à ces communs numériques. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins évidemment à lever. Il y a des mesures à prendre pour pouvoir engager cette accélération. Et donc, c'est ma question, quels freins juridiques doit-on lever, mais aussi quel soutien économique ou quel modèle de gouvernance doit-on promouvoir pour faciliter l'émergence et le changement d'échelle des communs. Et je vais aller dans le sens inverse des aiguilles du monde, donc reprendre par le biais de Pierre Louis Roll. Merci.
C'est très pratique, comme ça je peux reprendre où j'en étais. ça fait une surprise. Et justement, ça va être très important pour nous de réfléchir aux formes juridiques que doivent revêtir ces communs numériques. Je le disais tout à l'heure, donc on a expérimenté la prise de participation dans des SIC. On a créé, par exemple, avec les acteurs de la médiation numérique, l'AMENUM, qui est aujourd'hui une société coopérative qui vote. On a créé une autre partie sur le place numérique. Ce n'est pas forcément simple. Aujourd'hui, le cadre juridique et réglementaire n'est pas forcément adapté pour une prise de participation de l'État au sein d'une société coopérative. Ça a été parfois pour des objets un peu compliqués, peut-être qu'on a voulu être un peu trop commun. Peut-être qu'un groupement d'intérêt public aurait été une forme plus souple entre acteurs publics qui peut aussi ajouter des acteurs privés. Donc il ne faut absolument pas s'interdire de bien organiser sa minorité, comme je disais tout à l'heure, et de, surtout de penser aux sources de financement et aux modèles économiques. Donc on a encore un travail à faire sur cette consolidation juridique-là, y compris en termes de doctrine d'achat public, de contribution. Ça aussi, la DINUM, il travaille également. Mais on a aussi, au-delà des freins juridiques, il y a des freins à lever, il y a aussi des fonds à lever en la matière, et aussi des esprits à changer. Les communs numériques, c'est pas simplement du risque, c'est peut-être plus long, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est peut-être plus robuste et c'est peut-être plus durable. Donc c'est aussi comprendre que c'est investir dans le commun numérique, c'est abaisser du risque, et je pense qu'il y a beaucoup de bailleurs publics, y compris du côté de la Caisse des dépôts et consignations, de l'EGPI, à qui il faut convaincre que aujourd'hui, mettre de l'argent public, et en plus, ça ne va pas forcément, c'est pas parce qu'on est sous le seuil des 10 millions d'euros qu'il n'y aura pas un effet levier. On parlait d'Open Food Facts, on parlait de Log4j. Enfin, parfois, c'est des coups de pouce, et d'ailleurs, ça mériterait beaucoup plus que ça, mais qui ont un effet transformateur et durable qu'il faut intégrer. Donc, il faut qu'on réfléchisse aussi aux mécanismes de financement public de l'innovation. Il ne faut pas demander des TRI à 20% sur tous les projets qui sont soumis. Et oui, il y a des associations, oui, il y a des coopératives qui font aussi l'innovation. Elles sont, rappelons les startups d'intérêt général, je ne sais pas quel est le terme, mais l'innovation se fait autre part que dans une levée de fonds classique, et c'est ces mécanismes-là, publics comme privés, qu'il faut qu'on réussisse à mobiliser et à convaincre, et on ne se rend pas compte à quel point ce sont des choses qui sont structurelles, voire vitales pour l'État, et surtout, qui ne viennent pas simplement pour l'État. Et pour citer un dernier exemple, je pense, nous, on a comme un numérique qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Décidim, qui est bien représenté dans la salle, qui est né d'un investissement public de la ville de Barcelone, qui aujourd'hui est maintenu par une fondation en Espagne, mais qui est vendu et diffusé par des entreprises un peu partout en Europe. C'est pas non plus un discours, on ne réclame pas le plan quinquennal du numérique, au contraire, c'est bon pour l'innovation, c'est bon pour le développement local du numérique, on crée des emplois locaux avec les communs numériques, on fait travailler des entreprises locales, et c'est ça aussi le discours qu'on porte auprès des collectivités locales et des investisseurs. Il y a des externalités positives qui sont très bonnes, ce que je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, dans les territoires français, et aussi, maintenant, la prochaine étape, c'est réfléchissons ensemble à l'échelle européenne sur comment est-ce qu'on investit dans ces communs numériques.
Merci, Jean.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai le droit d'être un peu personnel.
Mais non, on va y venir, c'était pour la deuxième.
Moi, je suis jaloux que ça s'appelle par son prénom ou pas. Ça dépend.
Sur quoi on atterrit, en fait, quand on a vu que c'était beaucoup d'avantages. En fait, on a été amené, et donc salut le travail de Margot Godefroy, qui est rapporteure au Conseil, qui a fait ce travail qui est extensif et assez laborieux, mais très intéressant. C'est-à-dire, quand on s'inspire, et je me dis bien qu'on s'inspire, hein, on ne veut pas la détricoter ou on ne veut pas la détruire ou quoi, mais quand on s'inspire de la Startup Nation, par exemple, et qu'on veut créer la Commons Nation, en fait, ça donne quoi? Ben, en fait, vous avez un tableau dans lequel vous avez toutes les solutions de financement pour les startups dans l'État, et qui sont des solutions de financement au soutien d'un modèle d'accroissement du capital, hein, très clairement. Et à droite, vous n'avez pas grand-chose. Et l'idée, ça pourrait être tout simplement de s'inspirer de ce qui se fait dans la French Tech, dans la Startup Nation, pour l'appliquer au commun. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent, en fait. C'est des programmes de soutien, c'est des programmes d'incubation. D'ailleurs, enfin, ce que fait la DINUM avec les communs aujourd'hui, c'est vraiment dans le droit fil de ce que l'on pourrait espérer en termes de soutien étatique aux communs. Et ça, c'est absolument fantastique. C'est-à-dire qu'on passe d'une incubation par des grandes entreprises du numérique à une incubation par la collectivité. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, bien évidemment. Donc, évidemment, on va parler argent, mais potentiellement, et si on veut parler de société des communs, je crois que Mathilde Bras vous en parlera plus tard, en fait, on pourrait penser reconnaître la contribution de chacun, finalement. Alors forcément, vous voyez, hein, on va vers des choses comme le revenu contributif, potentiellement. On va vers des choses comme peut-être la semaine de 4 jours avec une journée contributive. Et aussi, on vient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, à ouvrir nos organes de gouvernance. Moi, je rêverais peut-être un jour que le Conseil national du numérique, par exemple, devienne un commun un jour. Pourquoi pas? On pourrait imaginer ça. Il faut beaucoup de courage. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Mais on pourrait l'envisager. Et ce serait quand même très intéressant que nos administrations, potentiellement, un jour, deviennent des sortes de SCIC, puisque les SCIC ont comme capacité d'accueillir à la fois des acteurs publics et privés. Et donc, elles sont une source d'inspiration en cela. Alors, si on ne veut pas faire le grand soir tout de suite, il y a d'autres choses que l'on peut faire dans l'immédiat. Et c'est vraiment par pur opportunisme, hein, et ce n'est pas pour opposer les mondes ou diluer les choses ou quoi que ce soit, mais comme on fête les 10 ans de la loi ESS, et que je crois comprendre que dans cette maison, il y a des travaux qui ont commencé, on pourrait se poser la question de savoir si dans ce cadre-là, en fait, il n'y a pas un soutien quand même à une forme d'économie, qu'on va appeler solidaire, etc., mais en fait, qui pourrait venir soutenir ces communs numériques à travers des modes d'organisation, de financement, de reconnaissance, de valorisation, un petit peu renouvelés. Ce serait peut-être un moment important pour le faire.
Sébastien.
Oui, merci. Donc la question, c'est quel frein lever? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les communs? Alors la première chose qu'on peut faire, c'est soutenir l'IGN. puisque nous avons mis en place une stratégie visant à être un enabler, excusez-moi de l'anglicisme, un encapaciteur des communs. Puisque comme je l'ai indiqué, avec une communauté comme OpenStreetMap, on voit bien qu'on a une capacité de collaboration. Et on a aussi cette même collaboration, par exemple, avec les collectivités locales. Dans beaucoup de collectivités locales, ou aussi dans des SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours, ou dans des parcs nationaux, dans tout un tas d'administrations territorialisées, on a des équipes de ce qu'on appelle des géomaticiens, j'ai bien dit géomaticiens, non pas géomagiciens, donc qui sont des techniciens, en fait, qui travaillent l'information géographique. Et donc, en fait, on a des communautés techniques qui sont assez importantes. Et notre stratégie vise à donner du pouvoir à ces communautés, les mettre en réseau pour participer, comme je le disais, à des défis communs de passage à l'échelle. Un exemple récent, je vais utiliser à dessein un sujet qui fâche, qui est celui du suivi de l'artificialisation des sols. Par exemple, c'est un thème sur lequel nous avons développé un outil que nous mettons en open data et que nous sommes en train d'enrichir avec des feedbacks qui nous sont faits par les collectivités. Et nous sommes en train d'améliorer non seulement la donnée, mais même l'algorithme qui la compose, etc. Donc on voit comment est-ce qu'on peut embarquer des communautés et leur donner du pouvoir. Alors une autre manière de donner du pouvoir, nous le faisons à travers un outil qui s'appelle la géoplateforme, dont l'interface sera carte.gouv.fr, www.carte.gouv.fr, qui s'ouvrira à l'automne, et qui offrira des outils pour permettre l'hébergement de données et l'animation de communautés, le fait de pouvoir mettre des données sur une carte. Et ça, ce sera ouvert, ce sera gratuit jusqu'à un certain usage, et donc ce sera une alternative, comme le disait en introduction Henri Verdier, aux administrations qui aujourd'hui mettent leurs œufs, par exemple chez Google Maps, ou si je pense à un service de santé bien connu, pour ne pas le citer, Doctolib, quand vous cherchez votre dentiste, ou votre masseur qui n'est kinésithérapeute, hein, c'est comme vous voulez, et que vous voulez l'afficher sur une carte, ben là vous avez un petit pop-up
qui vous dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour que vos données soient envoyées aux États-Unis ?» Hein, pardon. Oui, parce que comme les médecins vont être affichés sur un fond Google Maps, eh bien, vos données vont être envoyées effectivement aux États-Unis. Et donc nous, à travers carte.gouv.fr, nous proposerons un service qui permettra demain à Doctolib, qui permettra encore plus à une préfecture ou à une collectivité locale, de pouvoir héberger ces données, animer des communautés sur des outils. Et nous le ferons main dans la main, je l'espère, avec les communautés, puisque l'accélérateur d'initiatives citoyennes qu'a mentionné Stéphanie Cher a reçu une candidature venant d'OpenStreetMap avec un service qui s'appelle UMAP, qui fournit des fonctionnalités assez proches. Et donc j'espère que nous allons faire converger ces outils pour voilà, avoir le meilleur des deux mondes. Comme j'ai été très court, là, je vais être un tout petit peu moins court. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est soutenir ces dynamiques d'encapacitation des communs. Et la deuxième chose qu'on peut faire, et là je vais être un peu plus polémique, c'est faire un petit effort collectif pour arrêter d'alimenter la grande créativité française. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur l'évolution du trait de côte et la douzaine d'organismes qui s'en occupent, c'est la même chose sur la forêt, c'est la même chose sur l'eau, c'est la même chose sur le logement, c'est la même chose sur tous les sujets. Tous les sujets. Et en fait, chaque organisme public a son mot à dire. Par exemple, là, on travaille sur un commun du logement, pour avoir un identifiant commun du logement. On a fait ça avec le CSTB, on a fait ça avec l'ADEME, se joint la DGFiP, se joint l'INSEE, se joint l'ADEME. Tout le monde, en fait, a besoin de décrire le bâtiment d'une certaine manière, et tout le monde l'a fait avec son angle. Et on en parlait hier au Conseil national de l'information géographique, justement de voir comment est-ce qu'on arrive à désiloter l'ensemble de ces acteurs dans une logique de commun. Mais pour que ça marche, ça veut dire qu'il faut miser sur les dynamiques en cours. On avait cet échange avec Henri Verdier sur une liste WhatsApp, où il disait le problème qu'on a,
c'est vrai, je ne suis pas sur WhatsApp.
Sur Signal. Où Henri disait, très justement, le problème, c'est qu'on ne sait pas miser sur ce qui marche. Et notamment les startups d'État, une des difficultés qu'on a, c'est qu'une fois qu'elle a fait sa preuve de concept, que ça marche, etc., on n'arrive pas à aligner tout le monde pour dire, bon les gars, ça suffit, c'est là qu'on se met tous à travailler. Et là, il y a vraiment une discipline collective. Et cette discipline collective, c'est une histoire d'ego, c'est une histoire de réflexe. Et c'est aussi, comme l'a très bien dit Pierre-Louis, une histoire de modalité de financement. C'est-à-dire que tant qu'on a ce réflexe des appels à projets, dans lequel on met en compétition tous les acteurs et on organise une espèce de course au financement, eh bien on organise la compétition. Et qu'est-ce que c'est que la compétition, à part la concurrence et donc la désilotation ou la silotation, si vous préférez. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on lutte contre un certain nombre de pratiques qu'on a eues par le passé. C'est pas seulement du positif qu'il faut faire, hein, c'est aussi de prendre des bons réflexes, des réflexes tout simplement coopératifs, de miser sur les dynamiques qui marchent. Merci.
Merci beaucoup, Stéphanie.
Oui, alors, par rapport à la façon d'accompagner les communs, on voit finalement de nos échanges qu'on n'a pas forcément encore toutes les solutions. Donc, je crois beaucoup aux séances de travail qu'on peut avoir les uns avec les autres. On a profité de l'événement qu'on a eu à la Digmine en début du mois de mai pour annoncer les premiers lauréats du programme Accélérateur Initiative Citoyenne, justement pour échanger avec le CNUM, avec l'ADEME, avec l'IGN, le ministère de l'Éducation nationale également qui a été cité tout à l'heure, la MCT, l'ANSSI, pour réfléchir, faire les constats et puis avancer. On est très content aussi de participer à Numérique en commun, dont on rejoint l'initiative en octobre prochain, également pour progresser. Par rapport aux pistes qui se font jour, je pense que bon, la plupart ont déjà été citées par les intervenants précédents, mais bon, il y a la question du financement pérenne de ces activités. Bon, sur l'accélérateur d'initiatives citoyennes, on vient en incubation en fait, pour arriver à créer les conditions d'une bonne collaboration entre une administration et un commun numérique qui se structure et qui va évoluer. C'est ce qu'on cherche à faire là avec les projets qui ont été cités et les projets qu'on va accompagner comme Open Food Facts avec les travaux de l'ADEME. Au-delà, ensuite, c'est sûr qu'il y a la structuration à trouver et du financement à pérenniser. Donc ça passe par des questions aussi de commande publique, hein, quand on a de l'intérêt général à continuer à pouvoir contribuer à ces communs. On peut penser aussi, et ça a été cité tout à l'heure par Jean Catan, sur la contribution des agents publics à ces communs, comment on arrive à l'organiser. On a un programme innovant à la DINIU qu'on a lancé alors dans un domaine proche, qui est la data science, avec les comités data scientists qui émergent au sein de nos administrations, et on les fédère dans le cadre d'un programme qu'on appelle 10% qu'on a monté avec l'INSEE, où ces agents dans la puissance publique consacrent 10% de leur temps à des projets d'intérêt général en data science. C'est finalement une façon de faire avancer des projets très concrets, mais en même temps ça crée des communautés d'acteurs qui partagent les mêmes valeurs, le même métier, et donc il y a un effet aussi communauté dans le cadre de métiers émergents qui est particulièrement intéressant. Le programme 10%, ça peut aussi être un exemple de valorisation de ceux, et ils existent déjà dans de nombreux agents publics dans le domaine numérique, qui contribuent à ces communs, et mon travail n'est pas forcément ni valorisé ni reconnu en dehors de leur stricte administration. Après, bien sûr, il y a les questions de financement à l'échelle européenne, mais là, je laisserai plutôt Henri sur ces questions qui peuvent également contribuer. On voit dans les exemples que j'ai cités, on peut être sur des protocoles qui sont utilisés uniquement en France. Le principe des communs, c'est qu'ils n'ont pas de frontières. Donc, plus on est de contributeurs, de toute façon, on peut se dire que meilleurs sont les outils, plus on assure la pérennité. Et donc, par rapport à cette politique de soutien en commun, ce qu'on recherche au niveau de l'État, c'est quand même de faire en sorte qu'on aille aussi dans la même direction sur les communs qu'on va soutenir, notamment ces briques logicielles sur lesquelles on souhaite appuyer les outils pour les services numériques de l'État, pour les outils pour les agents publics. L'idée, c'est qu'on trouve quand même des modèles qui permettent leur pérennité, et ceci à une échelle bien plus large que l'échelle française.
Et Henri, je vous laisse le mot de la conclusion.
Merci. Moi, je propose une première règle, c'est on n'inflige pas de l'aide. Donc s'il reste des degrés de liberté dans le monde numérique, c'est grâce à des gens comme Tristan et Mozilla, comme François et Mandraksoft, comme Alexis et Framasoft, comme OpenStreetMap, comme Wikipédia. On ne va pas leur dire, voilà, l'État s'intéresse enfin à vous, j'arrive, pousse-toi de là que je t'aide, et j'ai une stratégie pour toi, et maintenant c'est moi qui décide. Il faut une certaine humilité, et il faut aider ceux qui marchent s'ils le demandent, et en fonction de ce qu'ils demandent. Donc c'est vraiment important, parce que l'arrivée de l'État dans un univers comme ça, sensible, vibrant, nuancé, et de volontariat, ça peut aussi être délicat. Et donc, ne pas infliger de l'aide, cette première règle, elle fait partie d'un ensemble de suggestions plus vastes qu'on pourrait appeler « oui, il y a besoin d'un petit changement culturel ». Alors peut-être que ceux parmi vous qui venez des collectivités locales, vous le sentez aussi, cette logique de coopération, d'ouverture, d'écoute, de concertation, il faut l'appliquer dans beaucoup de questions en France, donc il faut aussi l'appliquer dans cette question des communs. Et Stéphanie y a fait allusion, il y a parfois des changements de mentalité. Je crois que j'avais fait la première circulaire d'INSIC qui essayait d'aider, enfin je crois que c'était Laurent ici présent qui avait fait le draft, d'encourager les administrations à envoyer des agents dans les communautés de logiciels libres. Mais le nombre de petites habitudes qu'il fallait surmonter, globalement la fonction publique elle aime bien une sorte de substituabilité des agents publics, donc on la ramène pas, on a un devoir de discrétion, on signe pas ce qu'on fait. Mais dans un commun contributif, vous avez besoin de savoir qui a publié quoi. Et donc en fait, il faut que les agents puissent signer ce qu'ils ont fait. Et il faut que leur hiérarchie n'ait pas l'impression qu'ils sont là pour la ramener. Et même les encourage à ça. Ça a l'air bête, mais c'est un changement culturel. Et puis de même, dans un commun, on débat, et puis on décide. Donc il faut être autorisé par sa hiérarchie à revenir dire, mon général, votre idée était excellente, mais la communauté a décidé autre chose. Donc en fait, on va partir dans cette direction-là. Donc et il faut que la hiérarchie encourage à ça. Donc il y a une espèce de posture basse, de posture humble, de posture de coopération dans laquelle l'action publique doit apprendre à se couler. Alors, je peux vous dire, comme depuis Etalab, ça fait une dizaine d'années que je navigue dans le monde des open government et ces choses-là. En fait, vous inquiétez pas, on reste toujours extrêmement légitime. Accepter d'être un pair, ça vous transforme très vite en primum inter pares, parce que vous représentez l'État, parce qu'il y a une sorte de légitimité, parce que nous, avec une petite équipe de 2 personnes, on a empêché des scandales incroyables à la ICANN juste en disant « la France n'est pas d'accord ». Et on nous a répondu « mais vous avez une opinion qui n'est que consultative ». On a dit « oui, d'accord, mais on n'est pas d'accord ». Et puis on a gagné. Donc, changement de culture. Ce changement de culture, je voudrais quand même en profiter pour dire que il reste quand même dans une épure qui est très française. Donc c'est quand même assez proche de nous. Je ne l'ai pas dit en préambule, je le dis maintenant. Ce récit d'un monde organisé avec de bonnes infrastructures publiques, tu ne trouves pas qu'il sent un peu la Troisième République quand même, et qu'on a construit la prospérité et la puissance de notre pays comme ça? Ce récit de bons standards ouverts qu'on a en commun, est-ce que vous savez que la plus ancienne agence de l'ONU, l'Union internationale des télécoms, elle est née à Paris en 1865. Donc les Américains étaient enlisés dans une guerre de sécession, il y avait un empire ottoman, il y avait un empire russe. Nous, la France, on s'est dit « Ah, le télégraphe, ça a l'air bien quand même ce truc. Ça serait pas bête qu'on s'organise intelligemment pour être sûr qu'on puisse se parler d'un pays à l'autre. Donc on va proposer à nos collègues de définir ensemble des standards d'interopérabilité pour qu'on puisse envoyer un télégramme en Inde, au Japon, en Allemagne. » Et il y avait un rêve qui était celui des Lumières, en fait, qui était « si la connaissance circule, la paix et la prospérité progresseront ». Et d'ailleurs, et j'arrête avec le cours d'histoire, une des premières décisions de la Révolution française, c'est de faire le système métrique. Et donc je veux dire, on a besoin d'un changement culturel profond, mais en même temps qui nous laisse très très proche de nos bases, en fait, de quelque chose de très français, de quelque chose qu'on a partagé avec l'Europe et que l'Europe peut partager avec le monde. Et donc ça m'amène au dernier point. Moi, très concrètement, j'aimerais beaucoup que la Commission supérieure du numérique et des postes et que la représentation nationale, ici représentée, vous nous aidiez dans ce projet de construire une fondation européenne pour les communs, que vous nous aidiez à la fois politiquement, c'est-à-dire je crois que le message, assez simple en fait, l'Europe, c'est le berceau des standards ouverts. J'ai parlé de l'UIT, mais les travaux de Louis Pouzin qui permettent de faire TCP/IP, la 3G, le GSM, Bluetooth, Linux, c'est européen. C'est ça notre leg. C'est ça qu'on a donné au monde. Et d'autres en ont profité pour faire des big tech. Mais tant mieux pour eux, ils ont bien raison. Mais l'invention du numérique et l'invention d'Internet, c'est chez nous. Donc dire d'abord le revendiquer. Et dire de ce fait, on a quelque chose à en dire. On a quand même une sorte de vague droit d'auteur. Pas un droit d'auteur en propriété intellectuelle. Donc nous, on est préoccupés de ce que ça devient. Et nous, on veut qu'il reste des espaces de liberté, des espaces de non-domination, des espaces de coopération. Donc ça, c'est un récit politique. Mais je pense que le récit politique, il doit faire un petit pas de plus et dire, à un moment, il faut mettre un peu d'argent. Alors, je précise, et d'où le ne pas infliger d'aide. Quand on a consulté dans le travaux sur la Fondation, la plupart des commoners européens. Et leur message, c'est oui, on manque d'argent. Je ne sais pas si vous savez, on a mentionné 3 fois OpenStreetMap. Aujourd'hui, OpenStreetMap France, ça tourne sur une machine prêtée par Xavier Niel via la Free Foundation. Si Xavier Niel change d'avis, bon, on utilisera le truc qui est dans la cave de Christian Quest pour rebooter autre chose. Mais on ne peut pas bâtir une industrie entière sur une telle précarité. Donc, on le fait, mais on a tort. Donc, il y a besoin d'un peu d'argent, mais ils nous ont dit, mais avant l'argent, j'ai besoin que vous nous compreniez un peu, que vous contribuiez, que vous autorisiez vos agents à contribuer, que vous nous utilisiez, sauf le jour où Framasoft a dit à l'Éducation nationale, si vous mettez 1 million de profs du jour au lendemain, vous allez nous tuer, donc utilisez-nous, mais aidez-nous un peu quand même. Et c'est intéressant comme question. Et puis que vous pensiez à nous dans chaque acte législatif, parce que la moitié des textes européens, dans leur première épure, ils ont failli tuer Wikipédia. Parce qu'on fait une régulation contre les acteurs structurants, et donc on les définit comme quelqu'un qui a plus de 40 millions de visiteurs par mois, et on leur donne des obligations de présence légale dans chaque pays, et blabla, et blabla. Et Wikipédia, qui maintenant ça a changé, mais qui s'est développé pendant 15 ans avec 8 salariés, dit « je peux pas ». Et c'est juste que le texte est mal écrit. Donc ce changement culturel, il est là. Mais on a aussi besoin d'être capable de financer. Et ce que je peux vous dire, c'est assez simple. Le coup qu'on essaye de jouer, enfin tout le monde l'a compris, je peux vous promettre que pour chaque euro que la France mettra dans une fondation européenne pour les communs, les autres États membres en mettront 5 et la Commission doublera la somme. Donc pour chaque euro qu'on trouvera, il y aura 10 euros. Nous, on pense qu'il faudrait trouver un minimum de 100 millions d'euros. C'est à la fois de l'argent et à la fois c'est ridicule par rapport au budget du R&D de certains big tech. Enfin, voilà, Amazon, ils mettent 20 milliards par an juste sur l'IA. Donc je pense qu'on a besoin maintenant que ces travaux qui ont été faits dans une couche un peu tech, un peu bureaucrate et un peu de praticien, soient portés à un niveau politique qui est à la fois une revendication de cette ambition et puis qu'on nous aide à trouver quelques financements. Aujourd'hui, on discute avec le SGPI, mais voilà, un petit financement pérenne qu'il faudrait savoir où loger aurait un très fort effet de levier et bien sûr un très fort effet pour notre souveraineté, parce que quelqu'un l'a mentionné, non seulement certains de ces communs sont menacés de faiblesse intrinsèque, mais en plus on constate maintenant qu'il y a des stratégies de très grands groupes qui arrivent quand même à prendre le pouvoir sur des communs, parce que tout simplement ils envoient la moitié des développeurs. Et je ne sais pas ce que Tristan pense de ce que devient Mozilla, mais c'est la prééminence de Google dans la communauté de contributeurs à Firefox est préoccupante. Mais c'est aussi parce que nous, on n'a pas aidé d'autres gens à venir dans cette communauté. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et à Stéphanie pour cette première table ronde extrêmement riche, et je pense que le panorama dressé est très très complet.